Orchamps, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamps ce soir en compagnie de Dominique Valladier. Dominique Valladier, vous êtes comédienne, vous avez interprété de très nombreux rôles, en ce moment même vous triomphez dans une pièce à la fois très mélancolique et très grave, et en même temps qui nous fait beaucoup rire, et qu'on redécouvre, qui s'intitule « Qui a peur de Virginia Woolf ». On va revenir tout au long de cette émission sur votre parcours, votre itinéraire, vos choix esthétiques. Mais à 10-11 ans, c'était pas du tout comédienne que vous vouliez devenir. Vous vouliez devenir ballerine. Alors pourquoi ballerine? Parce que vous avez vu une émission à la télévision?
Ça m'a plu lorsque ma mère m'a inscrite au cours à l'Opéra de Nice. Ça m'a plu beaucoup. La discipline m'a plu. La ballerine en question, qui était Lisette d'Arsonval, m'impressionnait énormément. Et j'étais une personne très sévère. Et je pense que j'étais fascinée par sa sévérité aussi. Le goût de l'exercice, et puis ensuite le rêve de voler, de la ballerine, de s'envoler, parce que c'est quand même ça, c'est le saut qui est beau dans la danse.
S'envoler vers où?
C'est décoller, de terre, décoller. Vers où? C'est pas trop.
Et on peut le faire avec les mots?
Je pense que les répliques sont des sauts. Je pense que ce sont des bons. L'art dramatique et l'écriture dramatique, ce ne sont pas des narrations logiques. De réplique en réplique, ça bondit, ça agite le sens d'une manière plutôt, pas violente, mais assez forte, quoi. C'est pas doux.
C'est intellectuel ou c'est corporel ?
Corporel, et puis la voix, vocalement aussi, il y a des exercices, la voix aussi, elle va et vient, elle est forte, elle se fait douce, mais c'est un travail d'élasticité aussi, ou de le chuchotis, pour passer au cri, c'est un travail.
Au 19e siècle, vous auriez pu être une tragédienne, comme on disait.
Je ne me projette pas du tout dans ce passé-là, si on peut dire se projeter dans un passé, mais non, je ne crois pas. Je ne sais pas.
Mais avec vous, il y a souvent de la gravité à l'intérieur de vos interprétations.
Par rapport à... de la gravité sans doute, enfin du sérieux sans doute. Je prends au sérieux ce qui est écrit. J'essaye de ne pas le déformer. J'essaye de le faire entrer en moi d'une manière, de l'encastrer d'une manière sans trop le bouger.
Encastrer.
Un peu, oui.
Encastrer, ça veut dire quoi? Incorporer.
Oui, un peu. Oui, j'essaye de voir comment ça fait la phrase, ce qu'elle fait résonner en moi une fois que je la dis fort. Ou sur un plateau, évidemment, il y a le corps. Donc, il y a tout. Le regard, le corps, la posture, la voix. Et tout marche ensemble, quoi. Et se modifie selon la posture aussi, sans doute, j'imagine.
Et la voix intérieure?
Ensuite, par rapport aux répliques, il me semble... y a un déroulement extrêmement rapide est-ce qu'on peut appeler ça de la pensée, je sais pas, c'est comme une chose visuelle, comme si on voyait un autre texte qui fait des associations, qui travaille aussi parallèlement à ce qui est en train de se produire, qui a été appris.
Vous voulez dire qu'il y a deux personnes quand on vous voit sur un plateau de théâtre?
Pas deux personnes, mais il y a le texte su par cœur et la pensée en jouant. La pensée de la représentation et les associations qui se font, les associations nouvelles par rapport au texte, et aussi la particularité de chaque représentation, le rapport au public, la façon dont sont les partenaires ce soir-là, enfin tout ça, où on voit des choses nouvelles se produire.
On peut comprendre un texte autrement selon les représentations.
Oui. Je pense, oui. Pas, peut-être pas l'ensemble du texte, mais on peut dire des répliques tout à fait, d'une manière tout à fait opposée, sans même que ce soit si visible que ça pour les partenaires.
Alors que se passe-t-il dans cet espace entre le texte su par cœur, et ça c'est une obligation, une évidence, et la pensée du texte telle qu'il va se dérouler et telle que vous allez nous l'offrir?
C'est
On est où quand on est comédienne, là, dans ces moments-là?
Je ne sais pas trop répondre à ça. Parfois, on pourrait dire aussi, il y a des accélérations mentales de la pensée, ou des arrêts. On peut s'arrêter en chemin, et continuer à jouer, mais on est arrêté, des choses comme ça. C'est extrêmement, je dirais, comme vivre en poésie. Une chose comme ça, je sais pas, un truc qui ressemblerait à ça.
Donc il y a quelque chose de vous qui continue.
Oui, c'est un
comme
plaisir.
Une figuration de vous-même qui n'êtes pas vous-même. Vous êtes à un autre endroit.
Bah, je vis à un autre endroit. Ça ressemblerait peut-être plus à la pensée des enfants quand ils parlent tout seuls, ces âges où on parle seul.
Mais justement.
Mais sans être ça, c'est quelque chose de, c'est un plaisir qui existe pour moi dans le jeu, mais justement qui est parce qu'il est secret, parce que aussi on injecte dans le jeu de notre propre vie, on raconte autre chose avec le texte ou voilà, on brode autour quoi. C'est surtout comme de l'autre, ça serait un peu comme de l'écriture automatique. De l'écriture, c'est pas forcément conscient, mais on peut, on est conscient de ce qu'on, de comment on navigue avec le texte, avec la trame du texte écrit.
Vous parliez de votre enfance tout à l'heure avec la ballerine, et au fond, tout à l'heure, je disais que vous auriez pu être une tragédienne, mais vous avez aussi cette double caractéristique, c'est que les choses peuvent et sont souvent assez graves, parce que vous prenez le texte au sérieux, comme vous avez dit tout à l'heure, mais en même temps, beaucoup d'enfance. Et quand vous parlez de ce monologue de l'enfant, est-ce que interpréter un rôle, rentrer dans un personnage, c'est renouer justement avec cette période-là de l'écolalie de l'enfance?
Peut-être. Je n'avais jamais parlé de ça. Pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Ça me vient aujourd'hui de parler de ça, cette voix cette parole ou cette pensée, ou parce que j'entends pas des voix, non, c'est pas ça, mais c'est une activité cérébrale, si vous voulez, continue, mais qui est quand même axée sur. Je pense que l'enfant a des thèmes aussi, mais qui est axée sur le thème de la pièce. Et qui parfois se libère du thème pour dans des sortes de ralentissements ou des choses comme ça, qui peuvent se produire dans le jeu aussi, où on peut jouer très vite et avoir des temps infinis dans le jeu, des temps très longs, même si on parle très vite. Et c'est peut-être les moments où on a le plus de temps, où le mouvement va être le plus détaché de la parole et on va prendre beaucoup de temps pour faire un mouvement. Et c'est une respiration comme ça, une espèce de liberté, oui, une espèce de liberté, je dirais. C'est un sentiment de liberté.
Et ça s'apprend, le théâtre? Puisque vous l'enseignez.
Je l'ai enseigné, enfin j'ai enseigné, j'ai travaillé 20 ans au conservatoire, donc il m'a semblé que le regard long sur un acteur, la capacité de regarder sans trop le déranger, c'était bon pour enseigner. Ça pouvait aider l'acteur à trouver cette liberté pour pas qu'il soit dans des sortes de prisons qui seraient comment, qu'est-ce que mon personnage est, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me raconte. Bon, au bout d'un moment, ça ferme et l'acteur ne s'exprime plus. Ce qui est important, c'est les particularités des acteurs et de leur dire ce qu'on voit quand on les regarde. Parce que le spectateur aussi, il navigue. Il navigue aussi ailleurs, il n'est pas forcément au même endroit là où l'acteur ne pense pas que le spectateur est quelque part en particulier. C'est une expérience commune entre le public et celui qui est sur le plateau et ceux qui sont sur le plateau, je trouve. Donc pour les acteurs, mais j'avais eu un prof à Nice de théâtre qui était comme ça, qui ne parlait pas. Je l'aimais beaucoup. Il était très intéressé, mais il parlait très peu.
Il attendait de vous, en fait.
On voyait qu'il il était émerveillé par les personnalités des gens, des jeunes acteurs. Donc on se sentait nécessaire à son regard. On sentait que ça voulait dire quelque chose pour lui d'être là tous les après-midi. Il était un homme âgé et c'était... Il riait au texte, il aimait les textes et il réagissait au texte et il aimait entendre les jeunes acteurs. Il ne perdait jamais de vue ça, les jeunes. Il n'avait pas d'idée trop sur comment leur dire comment faire. Parce qu'il gardait intact ce toucher des jeunes gens au texte, surtout au texte ancien, et c'est toujours très beau. Quand les jeunes touchent à quelque chose qu'ils n'ont pas connu, qui est très lointain, c'est toujours une naissance, d'une certaine façon, du texte.
Vous avez laissé beaucoup de souvenirs au conservatoire en tant qu'enseignante. Vous est-il arrivé de pressentir immédiatement que telle personne allait loin? Et qu'est-ce que ça veut dire aller loin quand on fait du théâtre? Et d'autres qui n'auraient peut-être pas ni la force ni la possibilité de continuer.
Je ne regardais pas. J'ai souvent rencontré des personnes dont la personnalité que je trouvais qui me montrait des chemins à moi aussi. Et je ne m'exprimais pas en termes de. Je ne pensais pas en termes de celui-là va réussir ou celui-là ne réussira pas. Parce qu'il n'y a pas de réussite, je pense, dans cet art. Bon, c'est des vies comme ça. Ce qui est important, c'est d'avoir le sentiment de s'exprimer. Oui, j'ai rencontré beaucoup de... les deux jeunes acteurs qui jouent dans la pièce, je les ai eus comme élèves. La jeune fille, Julia Faure et Pierre-François Garrel. Pierre-François, j'ai eu moins longtemps parce que c'était pas la même façon d'organiser les cours, donc j'ai eu que 3 mois, mais Julia, je l'ai eu plus longtemps. Et elle était... j'en ai un souvenir très précis de ce qu'elle... je me souviens d'elle, elle ne connaissait pas, elle était émerveillée par tout... Le fait de sentir que tout ce qu'elle faisait avait du sens, de lui dire tu as fait ça, tu as fait ça, d'énumérer finalement, elle ne pouvait pas penser qu'elle fasse autant de choses et que ça, c'était une mémoire aussi.
Donc le théâtre, c'est une famille parce qu'on embarque ceux qu'on aime dans les nouvelles aventures.
Ouais. Oui, c'est une famille, c'est vrai. C'est une communauté, c'est un abri.
Il faut pas être trop esselé dans cette famille. Quelquefois, il y a des personnes qui restent sur le carreau, ou en marge, ou qui attendent pendant longtemps.
En dehors de la troupe, c'est ce qu'a ressenti Vitesse chez Villard. Il était esselé, il ne lui parlait pas. Il l'a engagé, mais il ne lui a pas parlé.
Pourquoi, à votre avis? Alors, pour le coup, ils n'étaient peut-être pas de la même famille.
Je ne sais pas du tout pourquoi. Les raisons sont obscures, pourquoi quelqu'un engage quelqu'un puis ne lui parle pas. C'est assez obscur, difficile à comprendre. Je pense que Vitesse a beaucoup pris chez Villard, l'homme de troupe, la façon de gérer la troupe, le patron. Enfin, ce que j'imagine, en tout cas. Il y a une ressemblance même physique entre eux, je trouve. C'est assez troublant, ces deux hommes, parce qu'ils ont quelque chose de commun, des hommes assez secs, comme ça, aigus. Ils ont une ressemblance. Mais après, ça a dû être une expérience fondatrice pour Vitesse, pour inventer ce qu'il a inventé après. Comment il s'est inventé en tant qu'acteur, dans le corps, justement.
Parce que ce que vous retiendriez de Antoine Vitesse aujourd'hui, c'est plutôt l'acteur, le metteur en scène, le directeur d'institutions culturelles,
tout,
et de grands théâtres,
le prof,
comme Chaillot, ou la Comédie Française, le prof.
Le prof. Et l'acteur, mais oui, je dirais aussi beaucoup l'acteur, parce que lui-même, il considérait qu'il avait des progrès à faire jusqu'à la fin de ses jours. Il considérait qu'il fallait qu'il devienne un grand acteur. C'était son but, comme ça. Il disait, je voudrais devenir un grand acteur. Mais on disait, mais tu es un grand acteur. Il n'y croyait pas. Je ne sais pas trop pourquoi.
Nous allons l'écouter. Nous allons écouter Antoine Vitesse qui va évoquer sa position face à la place de l'acteur dans une pièce. C'est une archive INA du 8 août 1972.
J'ai commencé à travailler avec les acteurs en me donnant pour tâche de faire que l'acteur soit le seul porteur des signes du spectacle. Dans mes spectacles, maintenant, il n'y a plus jamais de petits rôles. Il n'y a plus que des acteurs qui se partagent la totalité du travail du spectacle. Évidemment, le travail sur Faust, le travail sur Electre, se réenrichit d'un certain nombre d'éléments comme le maquillage, comme le costume, comme des éléments scénographiques colorés. Mais je pense que ces éléments-là, au lieu d'être un contenant à l'intérieur duquel on fait travailler des acteurs, et où on les met en scène, si je puis dire, un peu indépendamment du contenant, est à partir du point de vue de l'acteur. Par exemple, dans Faust, les objets, les couleurs, les maquillages étaient comme en prolongement du travail que je demandais aux acteurs et à moi-même comme acteur.
Nous venons d'entendre la voix d'Antoine Vitesse et vous avez eu la chance, Dominique Valadier, de faire partie de cette aventure qui devait être extraordinaire en 1978, de monter ce cycle de Molière dans une redéfinition du théâtre de Molière, puisque l'idée, si j'ai bien compris, ça a été redonné récemment au Théâtre des Amandiers de Nanterre dans une revisitation de Gwenaël Morin. Je crois qu'il a repris les idées de Vitesse, c'est-à-dire on change les rôles, on permute les rôles selon les pièces, pas de décor, rien que les acteurs, rien que le texte, en montant 4 Molières à la suite.
Je crois qu'il me semble qu'on m'a raconté qu'il avait tiré au sort les rôles se mettant en scène là. Vitesse avait émis l'idée qu'il pourrait aller jusque-là. Il ne l'a pas fait, il avait distribué, donc je ne sais plus combien on était, 8 ou 9. Mais ce qui était formidable.
Donc l'école des femmes, le misanthrope, Tartuffe, Don Juan.
Voilà. Et ce qui était formidable, c'était de démonter d'une certaine manière le système Molière. Et sa présence dans le siècle aussi. C'était avec ces jeunes acteurs qui, dans des costumes, les costumes de Claude Lemaire, je crois, oui. Je crois qu'elle avait fait les costumes et les décors. Et qui étaient des costumes d'époque, mais qui étaient dans des corps très acrobatiques, qui n'étaient pas du tout dans des corps du 17e, des corps guindés, ou même avec les filles corsetées. Mais les filles corsetées, il aimait beaucoup que la jeunesse contemporaine apparaisse à travers les pièces, même classiques. Et tout. Il aimait ça. Et les obsessions de Molière, en jouant les quatre, et le roman de Molière, de sa vie, apparaît. Et c'est vraiment, c'est vrai, vous le dites, une chance inouïe d'avoir fait partie de cette expérience, parce que c'était la première fois que peut-être j'avais une relation intime à l'œuvre, où l'œuvre pourrait m'accompagner un moment. Ou tout le temps, toute ma vie.
Et l'Alexandrin ?
Alors, l'Alexandrin, ça, c'était pas ma spécialité, l'Alexandrin. Mais j'imitais un peu, je me faisais un peu dire la musique par Nada.
Nada Strancard, donc.
Je disais à Nada, peux-tu me dire. Il indiquait. Par exemple, je faisais pas les longues et les brèves, étant méridional, donc je faisais plutôt des brèves. Bon, ça ne posait pas un gros problème pour lui, mais moi je demandais un petit peu à Nada de me donner des balancements dans les vers pour me donner un élan. Ou quand je travaillais, quand j'ai pu avoir la chance de jouer face à Madeleine Marion dans Bérénice. C'était Bérénice, je crois, ouais. Et donc, où je la regardais jouer et je la regardais littéralement chanter le vers à sa manière, je voyais bien que... Elle avait un souffle, elle se promenait dans le verre littéralement, quoi. Avec le corps, c'était du grand art, vraiment.
Vous les oubliez, les rôles, une fois que les représentations sont terminées?
Les Molières, je me souviens quand même de pas mal de choses. Pas vraiment, non. Il y a quand même des... Si je reviens dessus... Ça me revient très vite.
C'est comme la bicyclette, quoi.
pas tout, mais Molière, particulièrement, parce qu'on l'apprend aussi à l'école, et que déjà à l'école, au lycée, ça me plaisait, cette forme-là d'écriture pour apprendre. C'était plus simple d'apprendre avec le théâtre, pour moi.
Est-ce qu'on n'apprend pas à l'école ce que vous interprétez aussi magnifiquement, comme par exemple Édouard Bond ou encore plus récemment Peter Handke?
Alors, Édouard Bond, j'ai pas fait partie des pièces de guerre et j'ai dû rattraper là beaucoup de temps. Quand j'ai vu les pièces de guerre, j'ai retravaillé les deux premières pièces de guerre au conservatoire avec une équipe d'acteurs absolument épatants qui étaient très intéressés. Et donc, on a d'une certaine façon redécomposé le travail d'Alain, moi, avec mon souvenir.
Donc d'Alain Françon, qui avait monté pour la première fois Édouard Bond et qui nous avait permis de le découvrir.
Voilà. Enfin,
en France.
Il avait été monté par Chéreau quand même, avant.
Oui, mais lui, il avait entrepris, et d'ailleurs il continue en ce moment, de nous faire découvrir cet auteur majeur vivant.
Oui, oui.
Avec cette langue très particulière.
Avec cette langue très particulière, parce qu'il y a peu de mots, et mais c'est un système de lecture que j'ai utilisé après, mais je l'ai utilisé quand j'ai remonté Molière au conservatoire aussi, sur le thème, la trame du texte, le thème, les thèmes qui sont développés et les segments qui s'ajoutent les uns aux autres. C'est quelque chose que j'utilise toujours maintenant dans les pièces, les segments qui s'ajoutent les uns aux autres, développer une idée... À un ou plusieurs personnages, que disait La Vitesse, quand il dit tous les personnages sont ensemble, développer à plusieurs une idée jusqu'à ce qu'elle arrive à un point culminant qu'il appelle la réplique centrale. À partir de ce moment, le ton change et on repart sur une autre idée qui fait la trame de toute l'idée du texte. Donc,
c'est quoi le ton, Valadier?
Je pense pas que j'ai un ton. J'essaye de ça bouge. Je me cherche à travers ma voix. C'est-à-dire, je corrige souvent en cours de route.
Vous avez combien de voix?
J'aime bien revenir à ma voix, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'elle est, mais j'entends quand même le grain de ma voix quand elle est dans son médium. Là, j'entends, en vous parlant, ma voix avec les notes qu'elle peut avoir et tout ça. Je n'aime pas trop quand elle monte en tête, dans le cri, pour travailler encore, quoi. C'est pas gagné.
Mais justement, est-ce que le poids de l'expérience ne sert pas de matelas protecteur à l'interprétation de personnages? Ou est-ce que c'est à chaque fois une prise de risque et un danger?
C'est mieux que de ne pas avoir trop de savoir-faire. Et d'être... si je vois les deux jeunes gens qui jouent avec nous, là, Pierre-François et Julia... ce qui est merveilleux, c'est d'aller plutôt vers eux plutôt que de leur demander Ce qui est beau, c'est la légèreté. Il ne faut pas avoir trop de poids.
Enfin, quand vous interprétez Qui a peur de Virginia Woolf, votre personnage, il n'est pas particulièrement léger.
J'ai pu remarquer en répétition, j'ai cru que c'était moi qui étais sans mémoire, mais c'était lui en fait. J'ai eu des problèmes de mémoire.
Lui, c'est l'homme.
Non, c'était le personnage, mon personnage.
Ah.
Je pense que c'est un personnage assez léger quand même.
Bah, c'est un peu, comment vous la définiriez donc cette femme qui vit avec son mari depuis très longtemps, mari
comme
avec
c'est lui qui le raconte.
Avec qui la vie est intenable, mais en même temps ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre.
Il raconte lui, parlant d'elle, que le père est omniprésent. Je la définirais avec un père omniprésent.
C'est qu'on ne voit pas dans la pièce.
Non, mais dont elle parle avec une force vide, si vous voulez, d'une présence comme si elle s'accrochait à des mots qui seraient papa, quand elle raconte les histoires avec papa, le match de boxe.
Comment vous dites papa ?
Papa, le match de boxe avec papa. Papa a toujours aimé la forme physique et papa avait invité des gens. Alors papa a dit, donc évidemment le traducteur merveilleux ajoute les papas les uns après les autres. Évidemment, c'est un texte qui en dit beaucoup sur la relation, la place, rien que la place que prend le mot papa dans son élocution, papa est très présent chez elle. Très très présent.
Enfin, elle vit pas avec son papa, elle vit avec son mari.
Papa, et elle dit plus papa que Georges.
C'est quoi ? C'est une femme prédatrice qui attend un jeune couple pour pouvoir mieux le dévorer et le consommer à l'intérieur de cette économie un peu étrange qui règne à l'intérieur de son propre couple.
Je pense que l'alcool, le signe de l'alcool pour tous les personnages dans la pièce sert à dépasser les limites et finalement à oser dépasser le carcan social et les convenances. Je ne pense pas que ça caractérise particulièrement l'un ou l'autre personnage.
Enfin, elle est plus puissante que lui, hein.
Lui, il y a une forme. C'est des rapports de force. Se mettre face à quelqu'un qui dit tu n'es rien et dire c'est vrai, je suis rien. C'est beaucoup de force de dire en face. Il y a une puissance d'exaspérer. Il a la capacité de l'exaspérer justement par cette force d'inertie qu'il a, qu'il utilise, qui est une stratégie dans le combat. C'est-à-dire qu'il la laisse se fatiguer. Elle n'est pas dans le combat qu'il se livre. Elle n'est pas au-dessus de lui. Je crois pas. Je crois que le jeu auquel ils se livrent, ils sont à égalité.
Cette pièce a donné lieu à un film qui est resté dans nos mémoires, interprété par Elizabeth Taylor. Nous avons retrouvé la voix d'Elizabeth Taylor, c'était en 1950. On n'en est pas sûr, c'était dans les années 50, sur une chaîne américaine. Elle va évoquer un autre film, Le père de la mariée.
I'm one just as hectic as the other. All during the fittings on my wedding gown for the picture, I kept wondering if this would take the edge off of a real wedding, when and if. Of course, I knew even then that Nick and I were going to be married, but it hadn't been announced, and I was just bursting with the secret. You know, everything in the picture was so complete, even to attempting the impossible business of paring down a guest list. Oh, I must say that Spencer Tracy's my film father had nothing over my real father when it came to distressed expressions.
Alors voilà, on a bien reconnu l'espèce de ritournelle de Taylor. Et on se souvient toutes et tous de ce film. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, je conseille quand même de le voir tellement il est fort, destructeur. Et on n'en sort pas quand même indemne. Est-ce que le fait d'avoir vu cette interprétation de Taylor vous a aidé à construire ce personnage de cette fille qui peut faire penser aussi à Gina Rowlands dans un film de Cassavetes, complètement perdue, quoi. Apparemment puissante, mais complètement perdue.
Je trouvais que dans l'interprétation de Liz Taylor, il y a ce qui m'a frappé, je l'avais
donc
pas
elle jouait avec son mari, son vrai mari, oui. Hein, Burton. Oui.
Ce qu'il y avait de plus lourd dans leur interprétation, c'était peut-être leur couple à eux et le fait qu'ils soient, que ce couple soit exposé à ce point-là.
Ben oui, mais vous avez le metteur en scène qui est aussi votre compagnon dans la vie.
Oui, c'est autre chose.
C'est pas tout à fait la même place, mais il se joue peut-être quelque chose aussi.
Ah, ça, ça serait le sujet d'un film.
D'un making-of.
Mais elle, ce qui m'a frappée chez Taylor, cette légèreté dans le jeu. Justement, elle joue sans mémoire, sans poids. Elle n'a pas de... Apparemment, il y a quelque chose d'intact, comme ça, dans l'apparence, dans le fait d'être là, de parler. En fait, ce ton presque enfantin, il n'est pas ce n'est pas bon signe sur le fait de rester en arrière. Ça, on le ressent très bien quand on se livre à l'expérience de ce texte-là. C'est évidemment ce qui remonte, c'est l'enfance, c'est une présence sans perspective, sans où on ne voit pas devant soi. C'est une présence comme ça, de l'instant, une présence, mais absolument oui, où tout est en même temps, tout est vécu avec intensité et une intense présence. Mais où il n'y a pas quasiment pas d'analyse. Elle est enfantine, c'est un personnage qui... dès qu'on se livre au texte, évidemment, l'enfance saute sur l'interprète. Puisque l'alcool, là où il n'y a plus de limite, d'un seul coup, elle se livre à toutes les plaisanteries, à tout ce qui lui vient, elle se laisse complètement faire cet humour ravageur qu'elle utilise avec lui. Et on pourrait dire les vérités qu'elle lui assène, les vérités du moment, qui ne sont pas des grandes vérités, mais qui sont des vérités du moment.
Comment on figure la douleur? Parce que dans la dernière partie de l'écriture de ce texte, donc, je crois qu'on ne porte pas atteinte au plaisir que pourraient avoir les auditeurs à aller voir cette pièce. Ils vont inventer un enfant. Un enfant, non seulement ils vont l'inventer, mais ils vont inventer qu'ils le font mourir pour justifier qu'il ne soit pas là. Et je me souviens de vous dans l'interprétation du petit Éolf où vous aviez aussi à charge le personnage de cette mère qui venait de perdre un enfant. Et je me dis à chaque fois, comment trouver à l'intérieur de soi-même la force pour pouvoir incarner la douleur?
L'enfant, ce qui est particulier dans cette pièce, c'est que l'enfant est inventé. C'est un enfant dont il parle. Quand ils sont seuls, il lui demande de ne pas aborder ce sujet auprès des jeunes invités. Et ce qu'elle fait immédiatement, bien sûr, on peut même penser qu'il lui demande de ne pas le faire pour qu'elle le fasse. Et donc le sujet est abordé. À partir de là, l'enfant vient sur le tapis et ils se mettent à broder autour de l'enfant devant les jeunes invités. Mais au cours de cette deuxième soirée, qui est une fin, ils sont revenus de soirée, ils étaient déjà bien atteints par l'alcool. Ils ont invité ce jeune couple, donc l'alcool continue jusqu'à point d'heure du matin. Et ils brodent autour de cet enfant, ils se disent des vérités et il y a une série d'humiliations qui se produisent de l'un à l'autre. Il y a un crescendo dans la violence verbale et qui amène finalement à un dénouement inattendu pour elle qui fait se rejoindre l'imaginaire et le réel. Le réel étant ce moment de désespoir. Le réel, il se concrétise il est obligatoire, je dirais, dans la pièce pour que le spectateur comprenne et que lui-même fasse l'expérience comment dire, de ce qui est ce mot qui a peur, de la peur, de l'effroi que doit provoquer cette pièce aussi, en même temps que le plaisir et le rire, ce qu'elle produit, mais il y a une forme d'effroi aussi. Dans cette douleur, dont on ne sait pas trop de quoi elle est faite, mais qui est faite d'un excès aussi, un excès de mots, de mots justement sans perspective, des mots qui sont dits sur le moment comme ça, qui sont des crescendo, des jeux qui avancent comme ça, qui créent des blessures chez chacun d'eux.
Avez-vous été cassé par certains rôles de Mick Valadier?
Je dirais que, certes, en général, le théâtre, non, m'a aidé m'aide, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie, de jouer, c'est ma vie. Donc, je ne suis pas cassée quand je joue. Je dirais que Herculine Barbin, peut-être, a été un... Je n'ai pas voulu faire de tournée d'Herculine Barbin.
Pourquoi? Ne pas répéter.
C'était trop. L'exercice en lui-même et peut-être aussi l'effet produit sur le public était trop... je ne sais pas, il y avait un dépassement physiquement, je ne m'en sentais pas capable de continuer.
Comment savez-vous que c'est trop?
Je ne sais pas. Pas répondre. C'était peut-être le seul spectacle où j'ai ressenti ça, parce qu'autrement, non, je... Peut-être que la prison, ça tient au thème d'Herculine. La prison intérieure et la métamorphose en homme ou en femme. Cette bousculade interne et organique me faisait plus penser. Si j'entends Artaud, vous voyez, où d'un seul coup, la profération est une douleur, où on a peur quand on écoute Artaud, ou des choses comme ça, où le cri devient quelque chose qui a à voir avec l'organe, avec les organes. Fait mal.
Ben ça veut dire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire que quelquefois, un rôle, un personnage, et vous, ça peut quelquefois rentrer tellement à l'intérieur que...
Peut-être. Je dois dire que ce sont des...
On dit faire théâtre, mais faire théâtre, c'est faire corps avec soi-même, si je vous comprends bien.
Je crois que là, pendant les répétitions, peut-être que... Oui, il y a des moments où il y a des problèmes qui se créent avec certains... La confrontation, le texte a pris, par exemple, il fallait apprendre le texte. Bon, ok, on arrive avec le texte, le premier, en tout cas le premier acte, qui est l'acte le plus, la première partie, qui dure une heure de texte. Et quand je me lance dans le texte, je ne fais pas appel à la mémoire que j'ai utilisée pour l'apprendre par cœur, je dirais. C'est-à-dire que le texte, il me saute dessus, quoi. La phrase me saute dessus, donc je suis après la phrase, je suis aphasique et la phrase, elle fait un chemin. J'ai pu remarquer ça. La phrase fait un chemin. Elle se plaque et elle installe sans doute beaucoup de choses à mon insu. Et là, je m'en suis rendu compte parce que j'étais comme interdite par les phrases, c'est-à-dire il fallait continuer. Ce sont des phrases très légères. C'est dans quel film ça commence comme ça, Bette Davis, des choses très banales comme ça. Et chaque phrase, c'était il fallait être par rapport à des phrases comme ça qui sont peut-être avec Vinaver, on a ça aussi. Les phrases vont très très vite. Elles sont comme évanescentes, comme ça, elles s'évaporent. Et c'est très... ça nous atteint à notre insu. Ça nous rapte d'une certaine façon, quelque chose comme ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, cette chose-là, que jouer pouvait avoir un... Jouer des rôles pouvait avoir un effet. J'ai dit Herculine Barbin, mais quand on a joué Café de Bond, on jouait avec Stéphanie Béguin, la nuit de Café dans Bond, je n'ai jamais éprouvé un tel essoufflement sur un plateau avec une partenaire. C'est-à-dire, quand on était en coulisses, c'était pas possible d'échanger deux mots, on était dans une sorte d'épuisement. Et quand Bond l'a vu, la première chose qu'il a demandé, est-ce que c'est fatigant à jouer ? C'est fatigant à jouer. Et c'est éprouvant de vérité. Les situations extrêmes qu'il propose, et les mesurer et les jouer, il faut parfois... Clovis Cornillac me le rappelait il y a très peu de temps, pour trouver une réplique, deux répliques, quatre jours pour trouver une réplique. Elle n'a pas sa force. Ça veut dire rentrer sur un plateau pour dire « sors d'ici, tu es chez moi » et avoir l'appartenance du lieu, dire « tu es chez moi », c'est-à-dire créer la rue, créer l'extérieur et dire « ce trou est à moi ». C'est vrai que physiquement et sans doute psychiquement ça a un impact probablement, mais j'ai mis du temps à me le dire, j'ai mis du temps à l'accepter surtout.
Et si on se quittait sur une réplique de Virginia?
Oui, une réplique de Virginia. Je réfléchis. Non, je ne vois que les répliques sur papa. Papa, Martha est abandonnée à je ne sais pas quelle heure du petit matin. Papa sourit blanche. Tu as vraiment les yeux rouges, hein? C'est vrai. Tu as les yeux rouges, papa. Parce que tu pleures tout le temps. Moi aussi, je pleure tout le temps. Et Jojo, lui aussi, pleure tout le temps. On pleure tous les deux tout le temps.
Ben merci, maman Valadier. Alors, je rappelle que la dernière pièce où joue Dominique Valadier s'intitule « Qui a peur ?» de Virginia Woolf, qu'elle est mise en scène par Alain Françon. En ce moment, elle se joue au Théâtre de l'Œuvre. Merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Stéphane Daimon, Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.